Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à ce 32e épisode de Ciné Brunch. C'est un plaisir de vous accueillir moi-même, Louis Laramé, ayant en ma compagnie, comme d'habitude, Mélina Lopez-Nadeau.
Bonjour!
Et Jim Boulay.
Hello!
Comment allez-vous, messieurs, dames?
Bien.
Bien, bien. Oui,
ouais,
on va bien.
Ouais, ça va bien. Quand même bien.
Et toi,
ça,
Louis?
Ça va bien, ça va bien. Je vais en parler tout à l'heure dans ma nouvelle, mais ça va quand même très bien. Jim, qu'est-ce que tu as fait cette semaine?
Alors, cette semaine, je suis allé au cinéma, j'ai lu, j'ai fait plein de choses intéressantes. Et en parlant de cinéma, on a vu un film, moi et Mélina, durant le... En fait, Mélina et moi, durant le FCMS.
Merci.
Qui ouais. était... Après la guerre, j'allais me tromper avec jusqu'à la garde. Bref, deux choses distinctes. Après la guerre, donc, le film est actuellement présenté dans sa diffusion normale au cinéma, mais le film était présenté, disons, en avant-goût durant le festival. L'histoire, c'était en fait un homme accusé d'actes terroristes et de meurtres en Italie dans les années 80, l'époque de la Grande Révolution. Donc, l'homme se réfugie en France où il va recevoir l'asile politique grâce à la doctrine Mitterrand. Il habite à Paris avec sa fille, mais en 2002, paf, un professeur d'une université italienne est assassiné par un groupe d'extrême gauche et les regards se tournent vers l'homme et sa fille qui vivent maintenant en France. Donc, maintenant adolescente, la jeune fille, sous la menace que son père soit extradié en Italie où il risque la prison, va vivre toutes sortes d'aventures en cavale et tout ça. Donc, l'histoire tourne autour surtout de la relation de sa fille avec son père et évidemment de sa fille avec son adolescence qui trouve ça bien bizarre de soudainement devoir se cacher dans un chalet.
Oui, elle n'est pas contente, en fait.
Là, non, ça se passe plutôt mal à ce niveau-là. Et franchement, juste pour vous dire, c'est un très bon film. La fin est totalement surprenante. Dans ce film-là, on est tombé sur le popotin en voyant comment ça se... On pense vraiment que ça s'en va dans une direction, puis finalement, il nous coupe l'herbe sur le pied comme un roseau au printemps.
Non, c'est pas... Bref. Ce n'est pas une expression.
Non, bon, d'accord. Et aussi, rapidement pour vous dire, il y a un article d'Éric Bouchard dans le Huffington Post de Québec cette semaine. Éric Bouchard qui, rappelons-le, ou sachez-le, le président de la Corporation des salles de cinéma du Québec, moi-même, je l'ignorais, soit dit en passant. Il soulève qu'il est illogique que le financement qui touche l'industrie du film ne s'applique pas aussi à sa diffusion. Donc, selon lui, le cinéma, les salles de cinéma sont essentielles à la création de contenu cinématographique et à sa popularisation, enfin, on pourrait dire ça.
C'est quand même une position fortement surprenante que le directeur de la Corporation des cinémas du Québec demande du financement pour les cinémas du Québec.
C'est pas surprenant, mais il avait besoin d'exprimer son mécontentement face au budget et tout ça. Alors voilà, c'est tout pour moi.
Excellent, merci. Mélina, qu'as-tu fait cette semaine?
Ben, moi, je suis allée dans un mariage. C'était fort agréable.
Mais oui.
Mais cette question-là, Louis, tu t'attends à quoi comme réponse?
Oui, c'est ça.
Je sais pas.
Non, mais en fait, moi, je vais vous parler aujourd'hui du Festival de Cannes en France qui termine aujourd'hui le 19 mai et qui a commencé le 8 mai. Donc, c'est la 71e édition. Ça a été créé en 1946. Et cette année, c'est Cate Blanchett, l'actrice australienne, qui est présidente du jury. Et le Canada participe seulement avec Denis Villeneuve, qui est membre du jury. Donc,
Pas de film de Xavier Dolan cette année.
Non,
il n'y en a pas produit en 2017. Ça aide à cette situation-là. Peut-être qu'on aurait pu avoir Les Affamés, étant donné que c'était très bon.
Oui, mais revu qu'il présente avant de le diffuser. Fait que c'est ça.
Ah, ouais, c'est plus compliqué. Non, ok, ouais. Moi, cette semaine, je veux vous parler d'un réalisateur danois que j'aime énormément pour certains de ses films dans le passé, mais qui a une réputation plutôt malsaine et malvolante. On parle de Lars von Trier, réalisateur entre autres de Dance in the Dark, Antéchrist, Mélancolia et autres films ainsi qui vous... et Nymphoman plus récemment.
Les films qui nous rendent heureux.
Non. Lars von Trier avait été snobé par Cannes depuis 2011 suite à une sortie publique plutôt dramatique. Il y avait des rumeurs autour de lui qui tournent autour de l'histoire d'inconduite sexuelle, entre autres envers la chanteuse Björk lors du tournage du film A Dance in the Dark. Il vient de sortir son plus récent film à Cannes, justement, The House That Jack Built, qui suit un tueur en série qui a la mauvaise habitude d'étrangler et de tuer ses victimes, principalement des femmes. Lors de la présentation à Cannes, on parle de plus de 100 personnes qui se sont levées et ont quitté le film pendant la présentation, citant que c'était dégueulasse, que c'était pas regardable, que c'était de mauvais goût et sanglant. Entre autres, la scène en question... Dans le fond, le film suit le tueur, joué par Matt Dillon. La scène en question, c'est lorsqu'il aurait tué deux enfants à la carabine en leur tirant dans la tête. Fait que c'est pas... En tout cas, les critiques ont déjà commencé à sortir. Le Guardian a donné 2 étoiles sur 5 en disant que c'était le pire film qu'ils avaient vu de l'année. Il y a plusieurs choses comme ça qui ont cité l'arrogance et le hubris de Lars von Trier, la volonté de choquer à tout prix qui dépasse les limites du bon goût. Bref, le film n'est pas supposé sortir avant la fin de l'année, mais ça va être à surveiller ou pas. Comme film à venir.
C'est surprenant. On va voir si c'est juste très choquant ou si réellement c'est pas bon.
Oui, parce qu'il y a moyen de faire des bons films choquants. Je pense que Lars von Trier dans le passé nous l'a montré justement avec Antéchrist, mais à quel point puis jusqu'où ça peut aller, puis il semble pas vouloir reculer devant les accusations de très mauvais goût.
En même temps, les gens qui partent au milieu d'un film, même si ça m'est déjà arrivé avec les Guerriers de la Galaxie.
Les gardiens de la galaxie,
oui, mon Dieu, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Mais bref, c'est dur de faire vraiment une idée d'un film s'il te manque la moitié aussi, là.
Ouais, mais pour que ce soit suffisamment... Parce que c'est pas n'importe quoi, là. C'est l'auditoire de Cannes qui est réputé faire des ovations. Non, à rien, là. Il y a un film très récemment qui était The Black Landsman qui a eu une ovation debout de 10 minutes. Fait qu'à un moment donné, il y a quelque chose à dire là-dessus. D'ailleurs, la bande-annonce pour The Black Landsman, le dernier film de Spike Lee qui va sortir plus tard cette année, à propos d'une histoire vraie d'un policier noir qui infiltre le KKK à Colorado, est vraiment très drôle et je recommande à tous de le regarder.
Avec un parfum de réel, j'imagine, parce que c'est quand même une situation qui semble...
Non. C'est basé sur des faits réels. Bon. C'est entièrement basé sur la biographie d'un homme qui a contacté le KKK alors que c'est le premier policier noir du Colorado et qui envoie un de ses collègues blanc, évidemment, pour infiltrer à sa place, mais tout en utilisant toujours ses informations, ses alias, ses trucs à lui. Ça a l'air particulièrement intéressant. Il y a, entre autres, Adam Driver qui joue le rôle du policier blanc. Adam Driver qu'on a connu dans le rôle de Kylo Ren.
Oh, d'accord.
Oui, et dans la série Girls aussi.
Je n'ai pas vu la... Non, je pense qu'il y a personne qui a connu dans la série Girls.
HBO.
Non.
Eh bien.
Merci beaucoup.
Changer ce matin, je n'y comprends rien.
Lina, avec le mariage royal qui s'en vient très bientôt de Meghan Markle avec le prince Harry, il était obligatoire que tu ailles voir toi-même un autre film princier, aristocrate comme ça. C'est donc pour ça que tu t'es claqué La Reine de la Fête.
Mais c'est pas un film princier, pantoute.
Ben, le titre était et de la monarchie. Oh, là, oui. Comme
mais
moi, je...
Tu sais quand Louis pensait que tu allais voir un film d'équitation parce que c'était Louise le Cavalier?
Oui, sur son cheval de feu pour prendre les parts de Louis.
L'affiche... J'ai été revoir. L'affiche du film montre une femme sur un cheval avec une bannière en flammes. C'est ça.
C'est drôle quand même.
Et ça porte à la confusion, il faut dire.
Oui.
Mais La Reine de la Fête est quand même mettre en scène une des reines de la comédie, fait que je me sens quand même confiant de parler
non,
de...
Ton lien était valable, oui. Voilà. Mais sauf que le titre en anglais, par exemple, c'est Life of the Party, donc la vie de la fête. Donc c'est un peu différent...
Moi, j'ai les titres français ici sur ma feuille de route, fait qu'un moment donné, il va falloir réconcilier ça avec la réalité et blâmer le tout sur les censeurs québécois qui demandent des titres français qui, des fois, font aucun sens.
Bref, je vais vous lire le résumé du film. Donc, quand son mari la quitte, Dina décide de reprendre sa vie en main. Elle retourne à l'université et se retrouve dans la même classe que sa fille. Entre les soirées et la vie de campus, Dina va retrouver sa liberté et profiter de cette année. Donc voilà, ça c'est le résumé qu'on a. En gros, Dina n'avait jamais fini l'université car elle était tombée enceinte, son mari la quitte, elle décide de retourner et en même temps que sa fille se trouve à être dans sa dernière session à l'université, donc elle va aller terminer son bac en anthropologie Et faut dire que tu parlais, Louis, de Reine de la Comédie. Effectivement, le rôle principal est joué par Melissa McCarthy. Mais on a aussi, comme acteur, Julie Bowen, qui joue dans Modern Family, Gillian Jacobs, qu'on a connu dans Love, entre autres, Debbie Ryan, Maya Rudolph. Un cast assez drôle, une brochette d'acteurs assez divertissante, devrais-je dire.
Oh boy! Je dois admettre que, si je peux me permettre, j'ai vu quelques prestations de Melissa McCarthy au cinéma, entre autres dans la série Spy, mais aussi à Saturday Night Live, où elle a fait beaucoup de sa carrière, et je la trouve excessivement drôle. C'est une femme que je surveille attentivement parce que est funny.
Elle a le côté comique, le côté drôle qui fonctionne, en tout cas.
Oui, puis elle a un humour physique qui est très crédible.
Vraiment. Et assez intéressant parce qu'au début du film, elle est vraiment très maman, mais style années 70, là, avec les cheveux bouclés dans les bigoudis puis les chandails de laine rose. Puis ça donne un style assez particulier. Là. C'est franchement divertissant. Et fin intéressant, c'est réalisé par Ben Falcone, qui se trouve être son mari. C'est le troisième film qu'ils ont écrit ensemble, qu'ils ont scénarisé ensemble. Donc, un couple peut-être à suivre. Mais avant que je vous critique ça, on va aller écouter la bande-annonce.
Je ne regrette pas être restée à la maison pour toi, mais je regrette de ne pas avoir obtenu mon diplôme.
C'est pourquoi il y a une maman qui vient de s'inscrire à l'université. Je parle de moi, bien sûr. On se revoit dans la cour.
Personne ne dit ça, maman.
Dis à moi, oui.
Voilà.
Ouais, les bandes annonces de films où l'humour est particulièrement physique, c'est plus
abstrait. C'est plus dur à comprendre, ouais.
Oui. C'est vrai que la bande annonce, la première minute, c'est juste du non-verbal.
On va s'en reparler quand je vais faire la critique de mon film, parce que moi aussi, il y a des petits problèmes au niveau du visuel versus le sonore.
Bon. OK. Mais fait intéressant, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film-là, puis on en parlait, je crois, la semaine passée ou l'autre d'avant, c'est que la bande annonce ne couvre que peut-être les 10 premières minutes du film. Ensuite, on est complètement, c'est complètement nouveau. C'est pas du matériel qu'on a vu dans la bande annonce. Donc, pour ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'inverser un peu les choses. Donc, je vais vous donner tout de suite ma note pour ce film-là. J'y vais avec un 6,5 sur 10. Et dans le fond, très simple, j'ai enlevé 2 points à cause que il y avait, au niveau de la technique, des choses qui ne fonctionnaient pas, c'est-à-dire une scène où Melissa McCarthy est remplacée par une cascadeuse parce qu'elle fait une genre de roulade. Pendant une seconde où on est sur ce plan-là, on voit très bien la cascadeuse et on ne voit pas Melissa McCarthy, c'est-à-dire on voit une fille rousse au lieu de la voir elle. Donc ça fait pour moi, ça, c'est impardonnable. Peut-être que c'est juste mes yeux qui sont habitués à voir les détails de l'image, mais ça, pour moi, ça pardonne pas, surtout dans un film de cette envergure-là. Mettez le budget pour les effets visuels appropriés, parce que
pour une demi-seconde, mettons que...
Mais ça pardonne pas, tu sais. Je veux dire, peut-être que... Je suis peut-être la seule qui l'a vu, mais peut-être pas la seule, mais je veux dire, les gens peut-être s'en rendront pas compte, mais pour moi, ça pardonne pas. Également, un fil de micro qui dépasse un chandail à un moment donné, ça non plus, ça fonctionne pas. Ensuite, j'ai décidé d'enlever un point à cause que le backstory des personnages n'était pas développé, à part un peu la personnage principale. Mais pour les autres, on sort des trucs qui servent vraiment à la comédie, à l'humour, mais on ne sait pas d'où ça vient. Et un petit 0,5 parce que, comme dans certaines comédies, il y avait des trucs qui étaient absurdes dans ce film-là. Il y a des trucs qui étaient un peu trop absurdes puis qui brisaient un peu le sens du rythme. Au niveau du scénario, donc c'était vraiment ça, problématique, un peu trop absurde, et l'histoire des personnages qui n'était pas assez développée. Mais à part ça, tout le reste du film est bon, on a un bon niveau d'humour, on rit, c'est très surprenant à certains moments, donc je ne vais pas divulgâcher le fun. C'est un film agréable à voir et léger là, pour une petite comédie de début d'été, donc ça se prend bien, donc voilà.
Bon, ben, pour un jour de pluie, un dimanche de pluie.
Oh oui!
Hein?
Entre deux journées ensoleillées.
Avant le petit souper tranquille en pyjama.
Voilà, sur la galerie.
On n'a pas tous accès à des balcons, t'es un peu bourgeois, Jim. Mais merci beaucoup, Mélina, pour cette critique de film. Hey! Moi, j'ai pas été voir un film aussi dramatique, aussi le fun que ça. Moi, j'ai été voir cette semaine Le Cowboy, Version originale, version française de The Rider. En fait, c'est pas exactement la traduction, parce qu'il n'existe pas de traduction française. Il n'existe qu'en version originale, sous-titrée français, encore une fois. Ce qui est quand même quelque chose que j'apprécie, puisque j'aime entendre la voix originale. Mm-hmm. Si ça permet à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès en mettant les sous-titres français, ben, je suis content. Comme ça, je pense que c'est le meilleur des deux mondes.
Le cheval.
Il n'y a pas de cheval. De quoi le cheval?
Ben, c'est un cow-boy, il doit être sur un cheval.
Ouais. Il est pas sur un cheval?
Pas tout à fait. En fait, voici la description. Brady ne vit que pour les chevaux. Son univers est parsemé de champs d'équitation et bien sûr de rodéo. Alors qu'il avait une magnifique carrière.
De rodeo?
Rodéo. Ah.
C'est une blague, mais bon.
Elle était pas bonne, mais à un niveau dur à expliquer. Alors qu'il avait une magnifique carrière devant lui, celle-ci est malheureusement interrompue après un regrettable accident durant une compétition. La décision du médecin est irrévocable et définitive. Plus d'équitation et plus de rodéo, ou sinon l'état de Brady empirera jusqu'à devenir irréversible. Brady tente de se faire une raison, mais tout le pousse vers sa créature à crinière. Ainsi, lorsqu'il rencontre Apollo, un magnifique étalon sauvage que personne d'autre que lui n'a réussi à monter, Brady sait qu'il n'en a pas fini avec le rodéo. Mais à quel prix? OK, je vais mettre la bande-annonce, puis on s'explique qu'est-ce qui s'est passé.
No more riding, no more rodeos. If you don't stop, your seizures are going to get worse.
I had to sell Gus, Brady.
You can't sell Gus.
It's not like you can ride anymore.
You seen Lane? Remember when he went 3-for-3 in McCool Junction and won it?
Yeah, that was a good night for Lane.
There you go.
Sometimes dreams aren't meant to be.
Donc, un peu comme Mélina, c'est une bande-annonce qui était vraiment meilleure à regarder qu'à écouter. Ce que c'est, dans le fond, là, malgré ce que la description un peu glauque, un peu dramatique en fait, c'est encore plus triste que ça. Ah. C'est l'histoire, ça commence, la blessure est déjà faite. En fait, la première scène du film, on voit Brady en train de enlever le bandage pour la première fois, puis voir la cicatrice avec les agrafes de suture encore dans la plaie. Il a subi une fracture du crâne, il y a maintenant une plaque de métal dans le crâne. Puis, tout le long du film, c'est lui qui essaie de refaire sa vie maintenant qu'il est plus supposé faire du rodéo. Fait que c'est particulièrement dur dans un univers où tous ses amis sont des gens du monde du rodéo, où est-ce que son père travaille comme acheteur de cheval, où est-ce que sa jeune sœur qui a des problèmes de santé mentale doit être soutenue, fait qu'il a besoin de faire de l'argent. Tout ce qu'il sait faire, c'est de dresser des chevaux, quelque chose qu'il ne peut pas nécessairement faire avec sa blessure. On le voit, puis c'est un thème récurrent que de voir les blessures des gens, parce que le film commence, puis on voit trois de ses bons amis qui sont là avec lui, qui viennent l'aider. Il parle d'un cinquième qui faisait partie de la bande avant, qui a maintenant des blessures suffisamment graves pour plus être capable de monter. En fait, il n'est plus capable de parler depuis un accident, qui n'est jamais mentionné c'était quoi exactement. À tout moment du film, on voit de ses amis qui ont des bras cassés, qui ont des jambes cassées, qui ont des... mais c'est jamais mentionné parce que ça fait partie un peu de l'univers de ce film-là. C'est aussi un film qui est très fort sur toute l'espèce de vocabulaire, toute l'espèce de volonté masculine, de cowboy up, grit fierté, de vraiment rester stoïque face à la douleur. Fait que c'est toute cette espèce de recherche-là, c'est comme les étapes d'un deuil, d'un rêve qu'il ne peut plus réaliser ou qu'il voudrait encore réaliser. C'est 1h45, absolument magnifique, très triste, mais en même temps avec énormément d'espoir. C'est un film qui, malgré une parcimonie, dans le fond, de personnages ou d'action, réussit à nous faire découvrir un monde intérieur vraiment grand, réussit à nous faire vivre une douleur qui est quand même très grande chez les personnages. On voit des gens qui l'encouragent dans sa volonté de plus faire de rodéo, on voit des gens qui le découragent et qui demandent justement de continuer à le faire. Son père occupe un plan d'importance dans toute cette histoire-là. C'est un film qui, au niveau de la photographie, est très beau. Je pense que j'ai jamais vu les plaines du Montana de manière aussi magnifique. Il y a beaucoup de scènes où ils vont décrire le plaisir de chevaucher. Souvent, ça va même être superposé avec une voix off qui nous décrit le plaisir pendant que tu vois quelqu'un en train de monter et tu as l'impression d'y être. Sorti de là, j'avais envie de faire d'équitation. Puis vraiment, il y avait comme cette espèce de... De séparation-là entre ce qui est comme vu comme l'idéal des gens autour de lui, puis de ce que lui, moi, maintenant, doit se faire. Puis on le voit, entre autres, dans une scène qui est absolument déchirante au magasin où il doit maintenant travailler comme commis. Il y a un jeune garçon qui l'approche, fait comme « Hey man, t'es Tom Brady. T'es Brady. »
Tom Brady.
Non, c'est pas Tom Brady. T'es
le
Brady.
Football.
Non. T'es Brady, comme je suis un grand fan, je peux te prendre une photo. Puis t'as comme le frère qui comprend qu'il est pogné là, puis que sa blessure fait qu'il va rester là encore un bout. Fait que c'est comme déchirant de voir cette limitation-là entre les deux. Mmh. Je donne un solide de 8.5 à ce film-là. C'est pas nécessairement... Ça aurait pu être un petit peu plus teinte à certains endroits. C'est pas nécessairement recommandé à tout le monde parce que ça peut être vraiment lent, dépendamment comment... Mm. Faut se prendre au personnage. Faut accepter l'accent sudiste. Faut accepter de vivre au travers les yeux de ces gens-là pour qui l'important, c'est cette espèce de style de vie-là qui inclut les chevaux, la liberté, qui permet un peu... C'est ça. Faut accepter que notre expérience citadine est pas la même ouais. que celle-là, puis que les volontés, les rêves sont pas les mêmes à ce moment-là.
Ouais.
Parce que moi, je regardais les compétitions de rodéo, surtout au début du film, c'est comme présenté plutôt de manière très crue, les compétitions de rodéo, avec le country qui joue en arrière, avec la foule qui hurle, et j'avais zéro envie de me trouver là. Comme je regardais ça, j'étais comme « Oh, je vais aller ailleurs. » J'ai considéré pendant un bref instant, moi aussi, me lever et quitter, mais finalement, j'ai vraiment pas regretté de rester dans la salle.
Bon.
Fait que 8.5 sur 10. Juste mentionner rapidement plusieurs prix choix du public au Festival au TIFF de Toronto cette année. C'est entièrement scénarisé, produit et réalisé par la même personne qui est Chloé Zhao, qui c'est son début au niveau du cinéma. Les trois rôles principaux, c'est-à-dire de Brady, Tim, son père, et Lily, la sœur, sont joués par une vraie famille, c'est-à-dire la famille Gendreau. C'est même leur vrai nom. Même chose, Lane Scott, qui joue l'ami qui a mangé une volée, même joué par le même personnage. Donc c'est vraiment très près de la réalité. J'ai pas vérifié si c'était basé sur des faits réels, mais c'était très près d'une réalité très crédible de l'Amérique du Middle West. C'est donc à recommander puis à voir vraiment en acceptant la douleur de ces gens-là. Donc, pour la deuxième demi-heure, on va vous parler de Donald Glover, qui vient de faire beaucoup de vagues, entre autres avec la nouvelle bande-annonce de Solo, A New Hope. Mais avant tout, Jim va nous parler de Knock, un film français qui avait l'air quand même intéressant. Là. Ça avait l'air...
Oui, en fait, il faut prononcer Knock. Je sais que...
Parce
que c'est pas anglophone du tout. Oui, c'est spécial. On s'attend à ce que ce soit Knock, comme cogné sur la table. Mais non...
J'aime ça que t'aies cogné sur la table de la radio. Pour
illustration radiophonique.
Oui.
N'est-ce pas? Donc, Knock, comédie franco-belge, réalisée et écrite par Lorraine Lévy. Mais qui... Allez-vous me demander, Lorraine Lévy? On la connaît peu parce qu'elle a surtout travaillé à la télévision, en fait. Mais on connaît bien son frère, par contre, Marc Lévy, le prolifique auteur.
Oh, ouais.
Oui, absolument. Ça m'a amené toutes sortes de réflexions après le film, d'ailleurs, à ce sujet. Le film est basé sur une pièce de théâtre de Jules Romain, Knock, ou Le triomphe de la médecine, qui date des années 20. Il y a eu un premier film au début des années 50, dont l'histoire se passait dans les années 20, justement, et puis celui-là, 2017, en France, et un peu plus tard chez nous. Donc, Knock, le film met en vedette Omar Sy, le monsieur noir qu'on connaît pour son rôle incroyable dans le film Les Intouchables, et Anna Girardeau, qu'on a vu l'an dernier dans Le Retour en Bourgogne. Donc, on écoute la bande-annonce.
Voici le médecin du pays.
Et la population est pauvre?
Très aisée, au contraire, et même riche.
Mon cher confrère, vous avez gâché une situation magnifique. Vous auriez dû repartir couvert d'or.
La population de Saint-Maurice est bien portante.
Les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent, monsieur le maire.
Le docteur Knock fait savoir qu'il donnera tous les mardis une consultation entièrement gratuite.
Gratuitement, ça cache quelque chose et ça n'est pas normal.
Je suis médecin. À ce titre, je me dois d'abord à mes clients.
Le docteur Parpalais disait mes patients.
4000.
Mais vous m'aviez dit 3000.
C'est plus grave que ce que je pensais.
Alors, sachez premièrement, avant de parler du film, qu'il y a une véritable saga polémique autour de la promotion de ce film-là. Comme la plupart des films français, ils vont sortir au Québec environ 6 mois après leur sortie originale en France. Donc, dans ce cas-ci, il y a 7 mois, alors qu'Omar Sy avait commencé la promotion du film Knock, une critique acerbe d'Éric Zemmour, un journaliste et chroniqueur controversé, souvent traité de raciste pour ses propos anti-islamiques.
J'aimerais souligner, non, juste raciste, pour avoir déjà lu et d'Éric Zemmour.
Donc, c'est ça. Et bon, je parlais l'autre jour des sorties publiques des gens du milieu qui se donnent de la tribune pour chialer et nuire aux productions qu'ils n'aiment pas. Alors, en voilà un bon exemple parce que, en fait, tout a commencé en 2016, après avoir partagé avec Éric Zemmour et, entre autres, et d'autres personnes, le plateau de la chaîne de télé France 5 pour critiquer la sortie d'un film américain qui n'a aucun lien avec tout ça. Omar Sy aurait plus ou moins traité Zemmour de guignol sans le nommer directement lorsqu'un journaliste lui a demandé de commenter son expérience après la discussion. Un an plus tard, avant la première du film, Éric Zemmour a dit aux médias au sujet des mots d'Omar Sy que c'est toujours flatteur d'être traité de guignol par un guignol. Il considère qu'Omar Sy n'a aucune culture française et qu'il ne maîtrise pas suffisamment la langue française et donc qu'il n'a pas le droit d'interpréter une pièce de Jules Romain alors qu'il ne le connaît même pas. Donc, bref, l'histoire a grossi comme ça, là, ça a fait boule de neige. Les médias ont véhiculé, parce que c'est extrêmement vendeur, du Zemmour, malheureusement, c'est, semble-t-il, la personnalité qui augmente le plus les codes d'écoute d'une émission. Et donc, c'est ça, ça a été véhiculé par les médias. Énormément de propos désobligeants envers le film, et Omar Sy, résultat, Omar Sy annule la promotion de son film en 2017 et tombe en dépression. Et Éric Zemmour rit dans sa barbe. Mais donc voyons. Voilà l'histoire
mais
autour de ce film.
J'insiste, là, c'est pas la première fois qu'Éric Zemmour porte des propos litigieux envers des acteurs, des comédiens qui vont être d'origine autre que pur sang français.
Ben voilà.
C'est pas la première fois qu'il fait la une en tenant des propos qui sont racistes, zionistes, antisémites, anti-islam. Très fort sur l'anti-islam, là, lui constant que l'islam est une religion guerrière qui veut la mort de la France. Fait qu'en quelque part, à considérer avec le grain de sel puis la salière au complet quand cet homme-là parle.
Bon, ou le bloc de sel pour les antennes des chevaux. Donc, tout ça pour dire que, en fait, c'est ça. Ma critique, évidemment, a été faite donc, après la suite du film, sans savoir toutes ces informations-là, mais j'ai été extrêmement surpris de voir à quel point ce film-là est bas dans les critiques. Donc, voilà, je vais maintenant vous parler du film. Donc, le film Knock, ça se passe à Marseille en 1950. Knock, un garçon de la rue, se sauve en bateau pour échapper à ses dettes de jeu. Il se fait passer pour un médecin et 5 ans plus tard, il arrive dans un petit village pour remplacer le médecin du comté et valorise la médecine à sa façon comme une business. Donc, il y a beaucoup de... On entend souvent le mot charlatan, des choses comme ça. Ça sera à vous de juger si c'est un charlatan ou non. Premièrement, j'ai un message pour les critiques péteux. Alors, parce que dans notre domaine, on a souvent l'impression que les critiques regardent autour d'eux avant de lever la main, là, pour être sûr qu'ils sont dans la bonne gang. Donc, ce film-là, à cause de cette polémique-là dont je viens de parler, là, entre Éric Zemmour et Omar Sy, j'ai l'impression qu'il y a eu une très, très mauvaise presse et que c'est totalement non justifié. Ce film-là est peut-être pas digne, donc pour reprendre ou paraphraser les mots de M. Zemmour, du prestige de la grandeur de Jules Romain et de nos ancêtres. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter de dire que tout ce qui était avant était meilleur aujourd'hui dans la version originale et laisser la place à des nouvelles interprétations. Personne n'a absolument rien dit quand on a refait Roméo et Juliette avec Leonardo DiCaprio et pourtant, les personnages avaient des guns. Donc là, je pense qu'on a adapté l'histoire à notre génération. On a fait quelque chose d'original avec quelque chose d'ancien et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. Donc c'est vraiment mieux, c'est plus léger. C'est pas que c'est plus léger. On arrive au cinéma, contrairement au théâtre, à expliquer des choses sans utiliser les dialogues. Et je pense que c'est la grande force de ce film-là. Contrairement au film de 1951 où tout est dans le dialogue parce que tout est dans une expression très théâtrale. On parle vraiment de la comédie française à ce moment-là. Donc, je considère quand même que c'est un beau pastiche du théâtre et de ce qui s'est fait au niveau du cinéma français. Il y a des belles références très intéressantes au cinéma des années 50-60. En même temps, c'est très théâtral. On garde vraiment le style d'une pièce de théâtre, mais en l'adaptant au niveau visuel pour que ça marche au cinéma. Omar Sy est très bon en Dr. Knock. Je trouve que l'histoire est intéressante, qu'il l'a bien amené. c'est presque 2 heures de film, et pourtant, ça coule quand même assez bien. Là, il n'y a pas vraiment de longueur, le rythme est très bon. Par contre, il faut quand même aimer ce genre-là. Donc, on est dans un style très grossi, très amplifié, burlesque même, à la limite, un peu de Louis de Funès, beaucoup de caricatures dans les personnages. C'est des personnages très, très, un peu absurdes par moments, qui font des choses qui n'ont aucun sens. Mélange de style, tout ça. Donc, au niveau des plans, on joue beaucoup avec des clichés, mais c'est bien fait, c'est bien fait. On veut nous montrer des références, justement, au cinéma des années 50-60, comme je disais un peu plus tôt. Même une petite référence à Hitchcock, bien dissimulée. Donc, assez intéressant à ce niveau-là. J'ai beaucoup apprécié le film. Mais je l'apprécie comme on aime une pièce de théâtre. Les critiques disent que le film est vraiment trop politiquement correct, qu'il manque d'ambition. Personnellement, je dirais plutôt que c'est une comédie et que ça n'a pas besoin de... On n'est pas obligé de déranger quand on fait une comédie, on peut le faire, mais bon, ça va comme ça. Bref, la différence principale avec la version de 1951, je vais terminer avec ça, c'est que, premièrement, le Dr. Nock est noir cette fois-ci avec Omar Sy. C'est quand même une différence assez intéressante. J'ai trouvé ça le fun parce que... On n'en traite pas vraiment, on le nie pas. On fait une référence rapide quand il sort du train, on l'a vu dans la bande-annonce. Ou ah, je savais pas qu'il était. Puis là, il répond qu'il était quoi? Grand, très grand. Il y a un malaise. Mais ça finit là. Et le reste du film, et pourtant, ça se passe dans les années 50 où on s'entend qu'il y avait quand même assez peu de personnes noires en France. Et donc, ou qui occupaient un poste de prestige comme la médecine. Donc, on se serait attendu à avoir beaucoup plus de racisme ou de d'incompréhension de la population. Et bizarrement, tout ça disparaît totalement. Et j'ai trouvé ça vraiment bien d'appliquer une espèce de recette moderne à un environnement ancien. J'ai trouvé ça vraiment le fun. C'est ça, l'histoire est vraiment fidèle au vieux film, relativement fidèle au vieux film. Il y a des différences, évidemment, mais c'est plus profond, c'est plus riche dans le nouveau film. Il y a toute une profondeur dans le personnage du Dr. Nock. On connaît son histoire, ses émotions. Il y a une belle petite histoire d'amour quand même intéressante dans le film qui n'est pas du tout cliché quand on, quand on l'écoute. Franchement, entre les deux, je choisis le nouveau film sans hésiter. Je dirais que je donnerais comme note à ce film-là un 8.5 sur 10. Ça vaut 8.5 sur 10. Ah oui, absolument. J'avais envie de retourner le voir.
Après la question, Jim, oui. À ce fois-là, est-ce que moi je devrais aller le voir?
C'est ça la question. Voilà, c'est tout.
Merci beaucoup, Jim.
Docteur Miracle part dans sa petite moto. Docteur Miracle arrive, il ausculte aussitôt. Et pour soigner la grippe ou bien le limbago, il dit que.
J'ai pas souvent ça, mais j'ai un acteur de télévision que j'aime beaucoup, qui est aussi un artiste rap, qui est aussi un acteur de cinéma. Je parle 50 de...
50 Cent?
Ouh, 50 Cent, effectivement, fait de la télé, il a fait du cinéma dans la série Get Rich or Die Trying, il fait du jeu vidéo dans la série Blood Money, il a fait de la musique, c'est comme ça qu'on l'a connu. Mais non!
C'est pas lui, ah bon.
Non, je vous parle de Donald Glover, qu'on a également connu sous son pseudonyme rap Childish Gambino. Donald Glover, on l'a connu à la base, au début des années 2000, comme écrivain pour la série 30 Rock, réalisée par Tina Fey. T'as fait 3 saisons avec la série avant de... avant de commencer tout ça, là. Pourquoi est-ce que je vous parle de Donald Glover?
Oui, c'est ça.
Deux raisons. Un, il y a le film Star Wars Solo qui s'en vient dans les prochaines semaines. C'est l'acteur qui va jouer Lando Calrissian, jeune Lando Calrissian. Donc déjà là, c'est un profil extraordinaire. Mais en plus, la semaine passée, à Saturday Night Live, lors de son passage comme animateur, il a sorti son nouveau single qui s'appelle « This is America ». En lien avec un vidéoclip qui est sorti en même temps. Ce vidéoclip-là et cette chanson-là ont fait sensation auprès des médias américains. Ça a été officiellement sorti. C'est devenu automatiquement le numéro 1 au Top 100 Billboard. C'est un vidéoclip qui explore et une chanson qui explore les enjeux de race, les enjeux de milieu, les armes à feu aux États-Unis, également la place de la culture noire par rapport au capitalisme actuel. Donc, quelque chose de très puissant, de très lourd, mais qui en même temps est délivré avec une assurance qui ne sied que bien qu'à Donald Glover. Donc, vraiment un vidéoclip qui a fait scandale, mais qui en même temps est en train de faire... En fait, qui fait scandale dans la droite américaine et qui fait consensus dans la gauche américaine malgré quelques erreurs de parcours de Donald Glover. Fait que c'est ça. Donald Glover, on l'a surtout connu à cause de Community. la série télévisée très populaire aux États-Unis de NBC, où il a fait 5 saisons comme un des personnages principaux. Il a fait 5 saisons avant de quitter pour pouvoir se concentrer sur d'autres projets, entre autres sa carrière de rap. Il a sorti 3 albums jusqu'à présent sous le nom de Childish Gambino. Il a sorti, entre autres, Camp. Celui qui a fait le plus parler, c'est Because the Internet, parce que très, très controversé. Il y a beaucoup de gens qui trouvaient qu'il y avait des propos racistes envers les femmes asiatiques. Il y a également beaucoup de références très pop qui passaient peut-être moins bien dans la communauté hip-hop. Il a fait quelques petits rôles au cinéma, mais on l'a surtout connu dans Seul sur Mars, la production de Ridley Scott. Oh, oui. Oui. Puis la suite dans Magic Mike XXL. Il a également été soutenu par ses fans pour jouer le rôle de Miles Morales, la version alternative de Spider-Man qui est noir dans la série. Malheureusement, la version Marvel ont pris Peter Parker, le Marvel blanc, le Spider-Man blanc. Par contre, il a joué un des personnages secondaires dans la clique d'amis de Spider-Man à ce moment-là. Il a également fait la voix de Miles Morales dans la série d'animation Ultimate Spider-Man. C'est en 2016 qu'il a sorti la série télévisée Atlanta, qui était un projet à peu près pas connu. Personne ne savait à quoi s'attendre. Donald Glover, on le connaissait pour ses talents d'écrivain de comédie. À la limite, il avait fait du stand-up, des clips sur Internet. Mais on l'avait jamais vu vraiment faire une série sérieuse. Et Atlanta est sorti en 2016. Ça a été acclamé par la critique comme étant une des explorations les plus intéressantes de la culture noire, de la culture d'Atlanta, de ce que c'est que d'être noir en 2016. Ça lui a permis vraiment d'atteindre un standing dans la communauté artistique qui lui était refusé jusqu'à présent suite à quelques erreurs de jeunesse. Son premier vidéoclip qu'il a fait connaître sur Internet s'appelait Bro Rape, et il y a quelques jokes vraiment questionnables là-dedans. Mais bref, Atlanta lui a permis de vraiment se faire connaître. Il y a eu un projet avec la chaîne FX pour produire une série d'animation basée sur le comic book de Deadpool. Malheureusement, le projet a été annulé. En 2018, il va jouer Lando Calrissian pour Star Wars. Également, en 2019, il va jouer la voix de Simba dans le prochain film du Roi Lion.
Quoi? Il va avoir un autre film du Roi Lion?
Yep.
Je n'étais même pas au courant.
Moi non plus.
Je vous annonce qu'il va avoir un live-action.
Ah ouais?
Roi Lion.
Ah oui, ok, j'ai entendu parler finalement.
Oui, c'est ça, pour 2019.
C'est l'élément qui me manquait. D'accord.
Fait que ça, c'est Donald Glover. C'est un acteur, comédien, compositeur, interprète qui, malgré les multiples controverses, réussit toujours à attirer un following autour de lui, que ce soit pour ses blagues qui étaient vraiment bien envoyées dans Community. Il a même pris un rôle plus important d'écriture vers la fin de sa carrière, que ce soit en sa carrière de hip-hop, qui fait autant de détracteurs que de fans. Je pense que ça va être quelqu'un à surveiller dans les prochaines années. Là, on le voit de prendre de plus en plus de gros projets au niveau du cinéma. La deuxième saison de Atlanta est en train d'arriver sur les écrans pendant qu'on se parle. Donc, vraiment, je recommande à tous de surveiller Donald Glover dans les prochaines années.
Eh bien, à suivre.
À suivre.
C'est le moment des sorties cinéma.
Je suis sorti avec les chums de filles.
On a une bonne semaine quand même. Ou en tout cas, une bonne semaine pour moi. Birthmark, Les Trois Petits Cobayes, la version originale de Birthmark, qui est une comédie canadienne réalisée par Emmanuel Hoss Desmarais, qui met en vedette Matthew Good, Tony Collette et Fionnuala Flanagan. En 1977, deux scientifiques, Ben Morin et sa femme Catherine O'Neill, quittent l'université pour se consacrer à une expérience susceptible de révolutionner la compréhension de l'identité humaine. Le projet consiste à élever 3 enfants en allant à l'encontre de leur bagage génétique afin de prouver la supériorité absolue de l'acquis souligné. Les deux chercheurs souhaitent démontrer que tout le monde a le même potentiel et peut devenir ce qu'il veut. L'éducation de Maya, un bébé adopté de 2 parents idiots, en fera un petit génie, alors que Maurice, un nouveau-né adopté de parents violents et colériques, deviendra pacifiste. Enfin, Luc, leur propre fils, issu d'une longue lignée de scientifiques, deviendra un grand artiste. L'expérience ne donnera pas les résultats prévus, mais conduira plutôt Ben et Catherine à découvrir le véritable sens de la famille.
Ça va être ton film, j'imagine.
Je pense pas, non. Quoique, on sait jamais. D'ailleurs, parlant de ton film, Gauguin, la version originale française sous-titrée anglaise.
J'ai déjà vu, j'ai même critiqué.
Ah oui, c'est vrai. Faut que j'arrête de faire cette affaire-là. Bref, il n'est pas encore sorti au cinéma grande distribution, oui. Tu l'as juste vu au festival.
Au festival, oui.
1891, Gauguin s'exile à Tahiti, il veut en trouver sa peinture, en œuvre libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l'Europe civilisée. Il s'enfonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera Téhuran, qui deviendra sa femme et le sujet de ses plus grandes toiles. un film qui m'intéresse vraiment beaucoup, malgré que ce soit un documentaire, RBG, réalisé par Betsy West et Jodie Cohen. RBG, c'est le Ruth Bader Ginsburg, la juge de la Cour suprême des États-Unis, qui a mis sur pied un héritage juridique à couper le souffle, tout en devenant de manière inattendue une icône de la culture populaire. Il y a d'ailleurs beaucoup de blagues sur le Notorious RBG, mais ça, c'est une autre blague plus tard. Sans aucune biographie définitive, l'unique voyage personnel et l'élévation de cette grande dame à la plus haute cour de la nation a été en grande partie inconnue, même pour ses plus grands fanatiques. Jusqu'à maintenant, RBG est un documentaire révélateur explorant la vie et la carrière exceptionnelle de Ginsburg, par Betsy West et Jodie Cohen, et coproduit par Storyville Film et CNN Films. Honnêtement, j'ai vu la bande-annonce, j'ai hâte de voir ça, malgré que c'est une biographie d'une femme de 84 ans qui est juge de la Cour suprême, ça a l'air vraiment le fun.
Ben écoute, tant mieux.
Ça fait que c'est ça, hein? Il y a des chances que j'aille voir ça aussi.
Ben écoute.
La rivière cachée, version originale de The Hidden River, réalisée par Jean-François Lesage, documentaire québécois. Au cœur d'une forêt profonde coule une rivière. Sur ses berges, des hommes et des femmes se confient. Dans ce lieu reculé, propice à la réflexion, ils se questionnent sur ce qu'il faut pour atteindre la paix intérieure, supposent l'importance de transmettre quelque chose aux générations futures, réalisant que la fusion amoureuse est un idéal impossible. Alors que le soleil décline derrière les montagnes, les baigneurs s'avouent amèrement le cul-de-sac de certains rêves, mais trouvent encore du sens dans la contemplation de la nature, des étoiles et de la lune. Bref, un thriller extraordinaire. Yolanda, un drame québécois réalisé par Jeannine Gagné, mettant en vedette Paul Hamanrari et Margot Campbell. Venue de la campagne pour visiter une amie, Solange, 75 ans, redécouvre Montréal. Elle parle à tous avec confiance et fait quelques portraits des gens qu'elle croise. Elle rencontre Tom, un homme plus jeune, morose et désabusé. Aux scènes de fiction s'entremêlent des scènes documentaires, portraits de Montréalais et bribes de conversation prises sur le vif. Je pense que c'est tout pour d'important pour la semaine prochaine.
Ah ouais?
Ben, oh, attends. Je pense qu'il y en a un autre au bout de ma liste.
Moi, je n'aimerais pas que tu en parles de l'autre.
Tu n'aimerais pas ça que tu parles de l'autre. De Solo, une histoire de Star Wars. Solo, a Star Wars Stories. Réalisé par Ron Howard, qui est un artiste qui a mis beaucoup d'années sur la série Star Wars. Mettant de vedette Alden Ehrenreich, qu'on a connu dans la série Kingsman. Emilia Clarke, Woody Harrelson, Paul Bettany, Donald Glover et Tandy Newton. Au cours d'une aventure dans le monde criminel, Han Solo rencontre son futur copilote, Chewbacca, et croise le chemin de Lando Calrissian, des années avant de rejoindre la rébellion. C'est un peu dull comme description, mais allez voir la bande-annonce, ça vaut tellement la peine. C'est sûr que ça prend une bonne dose de nostalgie pour vraiment comprendre toute la bande-annonce, c'est pas si bonne que ça, mais c'est un film que j'attends avec impatience. Je me suis promis de ne pas lire de critiques avant que ce soit sorti.
J'approuve.
Sur ces belles paroles, mesdames, messieurs, ce serait la fin de cet épisode extraordinaire de Cinébrunch. C'est ça. Faites votre propre popcorn et laissez la condescension à la maison. Nous sommes désormais de retour sur les ondes des podcasts du Québec. Si vous avez la chance de nous suivre, laissez un review 5 étoiles sur iTunes pour que les gens puissent nous trouver. Sinon, allez nous suivre sur Facebook comme d'habitude et à CFLX à 11h tous les samedis.
Oui.
Je suis Louis Laramé et je vous souhaite une bonne semaine. Bélina.
Merci.
Jim.
Merci et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.